Bonsoir. Au menu du débat de ce soir, le mini-sommet des chefs d'État sur la RDC qui était prévu lundi dernier à Addis Abeba a été annulé en cause des divergences persistantes sur la mise en place d'une force d'imposition de la paix des 2500 hommes chargés de neutraliser les groupes armés dans l'est de la RDC, y compris les M23. Clôture hier jeudi à Lubumbashi au Katanga de la conférence sur la bonne gouvernance et la transparence dans les secteurs miniers. Nous avons dans cette émission Marcelin Mandouakila qui est directeur de rédaction au quotidien Forum des As, un journal qui paraît ici à Kinshasa. Bonsoir Marcelin Mandouakila.
Bonsoir Guy.
Bienvenue Marie Bakoumania, rédacteur en chef desk économie au groupe de presse Le Potentiel. Bonsoir, bienvenue Marie Bakoumania.
Bonsoir Guy.
Et Jean Dombassi, directeur de la radio communautaire de Mwanda au Bas-Congo. Bonsoir Jean Dombassi.
Oui, bonsoir.
Annulation du mini-sommet sur la RDC à Addis Abeba, clôture de la conférence sur les mines à Lubumbashi. Écoutons cette revue de presse que nous propose Kelly Nkouté pour savoir comment la presse a analysé ces différentes informations.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par le report de la signature de l'accord sur la crise en RDC, initialement prévu pour le 28 janvier à Addis Abeba. L'avenir titre, faute d'un compromis entre dirigeants africains, la signature d'un accord cadre renvoyé sine die. L'accord cadre pour la paix et la sécurité dans l'est de la RDC avait pour objet de remédier aux causes profondes des violences récurrentes dans cette zone. Pour Le Potentiel, la guerre d'intérêt bloque l'accord d'Addis Abeba. Pour des raisons obscures, la Tanzanie et l'Afrique du Sud se sont opposées à la signature d'un accord cadre régional sur la paix dans l'est de la RDC. Cette attitude met à nu une guerre d'intérêt qui ne dit pas son nom, conclut le journal. Le Phare, quant à lui, estime que Museveni crucifie la RDC à l'ONU. Pour ce journal, l'on a appris que le maître de Kampala a transmis au secrétaire général des Nations Unies un rapport accablant pour Kinshasa. La prospérité constate, pas de compromis à Addis Abeba. Au journal d'expliquer qu'Addis Abeba, le porte-parole de Ban Ki-moon, n'était pas allé trop loin pour annoncer l'annulation de la signature de cet accord. S'abstenant de beaucoup de commentaires, Eric Kaneko a laconiquement lâché que c'était un sujet très complexe. Pour Forum des As, Addis Abeba, Ban Ki-moon bloqué. Ce qui choque dans les états-majors des pays de la CIRGL qui ont pied dans la crise en RDC, c'est qu'on ne veut pas d'une option de neutralisation du M23, d'où les bâtons mis dans les roues du plan de Ban Ki-moon. Quittant le chapitre sécuritaire pour le secteur minier, pour parler de la participation du président Joseph Kabila à l'ouverture de la conférence sur la gestion minière à Lubumbashi au Katanga, Le Potentiel titre « Joseph Kabila veut lutter contre la corruption et la fraude dans le secteur minier ». Le chef de l'État a estimé que cette lutte permettra de combattre le paradoxe existant entre les immenses richesses du pays et la pauvreté de la population. Et à la une de Forum des As ce vendredi, on peut lire, les minerais congolais seront transformés sur place avant leur exportation. Plus de 100 recommandations ont été formulées à la clôture, mais aucune d'elles n'a été relevée à l'assistance, conclut le journal. Autre sujet qui ont fait l'actualité pendant la semaine, il y a notamment l'élimination de l'équipe nationale de foot à la CAN 2013, d'où ces titres en une des plusieurs journaux, entre autres Forum des As qui titre Claude Leroy démission. Le sélectionneur français n'étant pas parvenu à qualifier les Léopards au quart de finale de la CAN 2013, ce qui était son objectif premier, il est par conséquent appelé à rendre les tabliers une fois qu'il aura présenté son bilan aux dirigeants de la FECOFA. Et un autre sujet qui était aussi d'actualité, c'est le dernier rapport de Reporters sans frontières qui classe la RDC à la 142e place sur 179 pays au classement mondial des pays les plus respectueux de la liberté de la presse.
Merci, Kelly Nkouté. Un petit commentaire, Marcelin Mandouakila. Je rappelle que vous êtes directeur des rédactions au quotidien Forum des As. C'est un journal qui paraît ici à Kinshasa. L'actualité, c'est aussi l'élimination des Léopards à la 29e CAN, Coupe d'Afrique des Nations, qui se déroule actuellement en Afrique du Sud.
Oui, nous avons dit plusieurs fois que qu'un entraîneur national coûterait moins à l'État congolais. Je pense que Claude Leroy n'a pas été à la hauteur. Il nous a fait perdre du temps, de l'énergie et aussi de l'argent. Alors que si on pouvait miser sur le duo Lusa Dissou et Moukeba et les payer régulièrement, il coûterait d'abord moins à l'État par rapport à Claude Leroy. Et je suis presque sûr qu'il ferait du bon travail. Parce que Lusa Dissou était également à l'époque à Burkina Faso avec Watunda. Dès que les primes, oui, dès que perd son âme, dès que les primes étaient arrivées, on a vu comment l'équipe a réalisé un exploit. Donc je crois que même s'il a quelques relations avec certaines autorités, mais nous devons savoir ce que nous voulons, parce qu'il y a des éliminatoires de la Coupe du Monde qui arrivent aussi. Donc c'est le moment de mettre en place un staff technique national qui pourrait mieux faire le travail.
Un mot aussi au sujet du classement du RSF, Reporters sans frontières, qui place la RDC à la 142e place sur les 179 pays au classement mondial des pays les plus respectueux de la liberté de la presse.
Bon, c'est quand même écœurant que chaque fois qu'on publie un rapport sur la liberté de la presse, que la RDC se retrouve pratiquement sur le plancher. Je crois que les autorités doivent tirer des leçons nécessaires. Il faut quand même qu'il y ait des améliorations. On ne doit pas dire que tout rapport est fait juste pour critiquer la RDC, mais je crois que le plus important, c'est de tirer des leçons, d'avoir des améliorations, plutôt que d'être 142e. C'est quand même pas rassurant.
Merci, Birdie Marie Wakumania. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef d'Est Économie au groupe de presse Les Potentiels. Par rapport à l'élimination des Nolopars à la 29e Coupe d'Afrique des Nations, Marcelin Mandouakila incombe la faute au sélectionneur Claude Leroy.
Ben oui, il peut avoir en partie raison. Pour moi, je pense que Claude Leroy n'a fait que poursuivre le travail déjà abattu par un Congolais, Otis Ngoma. Pour moi, je trouve que ce Congolais pouvait parachever le travail qu'il avait entamé sous la direction de Nouzaré. Mais si Nouzaré est parti, on pouvait bien récupérer les Congolais et faire le même travail, peut-être avec un meilleur résultat qu'avec Claude Leroy. Claude Leroy, il a rendu d'énormes services à la République. Je pense qu'on peut l'en remercier et donner la possibilité à un Congolais de poursuivre ce travail. Donc je pense que cette élimination est de la responsabilité première de Claude Leroy, qui avait comme objectif de faire passer l'équipe des Léopards au second tour. Il n'a pas réussi. Je pense que quand on ne réussit pas, quand on n'a pas le résultat, tout ce qu'on peut faire, c'est débarrasser le plancher.
Oui, un mot aussi par rapport au nouveau rapport du Reporters sans frontières qui place la RDC à la 142e place.
Moi, je pense même que le Reporters sans frontières a été indulgent envers la RDC. On devrait même occuper une position plus en deçà.
Pourquoi?
De la 142e. D'autant
Pourquoi
plus qu'aujourd'hui, il y a cette autocensure qui a pris de l'ampleur dans le pays. Et si l'on devait comptabiliser cela aussi, si on ne se retrouverait pas à la 142e.
Et l'autocensure est consécutive à quoi?
Par le fait qu'il y a cette pression, cette énorme pression qui est exercée sur les hommes et femmes des médias. Il y a cette difficulté énorme d'accès aux sources par les opérateurs des médias nationaux. Et là, on ne peut pas dire que l'environnement s'est amélioré. Pour moi, la 142e place, c'est même un cadeau.
Jean Domassi, je rappelle que vous êtes directeur de la radio communautaire de Mwanda au Bakongo. Un mot par rapport à l'élimination des Léopards à la 29e CAN.
Merci beaucoup pour la parole. C'était prévisible, quoi. Moi, je pense que Claude Leroy est le responsable numéro un de cette mauvaise performance. Parce que d'abord, il est parti recruter à des joueurs fatigués, c'est le cas de Lualua. Je pense que Lualua a beaucoup donné pour la République. Ce n'était plus le moment d'aller recruter Lualua qui l'a titularisé tout au long de trois rencontres. Et pourtant qu'il y avait de très bons joueurs qui pouvaient jouer. Un joueur tel qui Sombe, de Darin Clémenté Mapende, il pouvait mieux jouer au milieu du terrain plus que les joueurs venus de l'étranger. Moi, je pense que le moment est venu pour repenser cette équipe nationale de la République démocratique du Congo. Claude Leroy a échoué brillamment. Moi, je pense qu'il faut résilier son contrat rapidement. Alors, rapidement, il ne faut pas attendre des semaines, trois semaines, parce que l'enjeu, c'est la qualification pour la Coupe du Monde.
Merci.
Voilà mon point de vue.
Jean Domassi, quelle est l'actualité aujourd'hui à Mwanda, au Bas-Congo?
À Mwanda, dans le Bas-Congo, c'est une journée ensoleillée. Mais de l'autre côté, c'est le clair et grincement des dents parce que vous savez, la mort de l'hôpital de Mwanda, l'unique de cette ville, est vraiment panne. Hein. Au moment où nous vous parlons, cette morgue, sa température varie entre plus 10 et plus 18 degrés. Alors, cette morgue aujourd'hui est en train de livrer des corps en putréfaction. Alors, pour le commun des mortels, de ceux qui possèdent un peu de moyens, préfèrent utiliser la morgue de Boma. Alors vous savez ce que ça coûte.
C'est à combien de kilomètres de moins d'un
4 kilomètres. Quelqu'un qui est maire ici, il faut prendre un transport pour aller mettre ça à Boma. Et si vous avez de la malchance, arriver à la morgue de Boma, il n'y a plus de place. On vous demande d'aller à la morgue de Lukula dans les Bas-Fleuves. Et nous regrettons tout ce qui se passe parce que ça se passe aussi et aussi de l'autorité. C'est la dernière morgue construite dans les Bas-Congo.
Merci.
Mais aujourd'hui, à toute première qui se distingue dans des pannes à répétition. Et aujourd'hui, à Mwanda, nous assistons à un retour à l'Antiquité. Donc, vous mourrez aujourd'hui, on vous enterre demain.
Merci, Jean Mbassi. Nous abordons notre premier thème de ce soir. Le mini-sommet des chefs d'État sur la RDC, qui était prévu lundi dernier à Addis Abeba, a été annulé en cause des divergences persisteraient sur la mise en place d'une force d'imposition de la paix des 2500 hommes chargés de neutraliser les groupes armés dans l'est de la RDC, y compris les M23. La signature d'un accord cadre régional sur la paix dans l'est de la RDC, prévu lundi dernier à Addis Abeba, n'a pas eu lieu. C'est en marge du 20e sommet des l'Union africaine. Cet accord devrait être signé par les chefs d'État de la région des Grands Lacs sous l'égide du secrétaire général des Nations Unies. Le porte-parole de Ban Ki-moon, qui l'a annoncé, n'a pas donné de détails sur les raisons de cette annulation. Eric Kaneko a tout simplement déclaré que c'est un sujet très complexe et que des discussions se poursuivaient. Innocent Olinga pour les détails.
Un sujet très complexe, il a dit, parce que selon un des conseillers du président Joseph Kabila, cité par l'agence Reuters, des divergences persisteraient entre la SADC et les Nations Unies au sujet du contrôle de la force de l'intervention dans l'est de la RDC. La SADC voudrait des assurances si la brigade à déployer ferait correctement la tâche lui confiée. Estimant que les troupes de la MONUSCO n'ont pas été à la hauteur, la SADC a sollicité vendredi dernier à Kampala le remplacement de la MONUSCO par la force internationale neutre composée de troupes entièrement africaines. Position que cette organisation tenait à défendre ce lundi à Addis Abeba. Mais de son côté, l'ONU envisage intégrer cette force neutre au sein de la MONUSCO avec comme mission d'imposer la paix. Les discussions des clarifications entre ces deux organisations doivent se poursuivre, apprend-on d'Addis Abeba. L'accord cadre pour la paix et la sécurité dans l'est de la RDC, qui devait être signé ce lundi, avait pour objet de remédier aux causes profondes des violences récurrentes dans l'est de la RDC, où opèrent depuis des années de nombreux groupes armés, avait expliqué dimanche Ban Ki-moon dans un discours prononcé à l'ouverture du 20e sommet de l'Union africaine.
Marcelin Mandakila, des divergences de vue persisteraient au sujet du contrôle d'une force d'imposition de la paix dans l'est de la RDC, et c'est ce qui est à la base de l'annulation de la réunion qui était prévue lundi dernier à Addis Abeba.
Excusez-moi, c'était tout de même prévisible. Parce que d'abord, au début, lorsque les voix s'élevaient pour demander à ce qu'en lieu place de la force internationale neutre, qui est la MONUSCO, que son mandat soit revu pour lui permettre de faire ce travail, et il y avait l'opposition du Rwanda, entre autres, de l'Ouganda également, même lorsqu'on a parlé des drones qui devraient arriver pour faire la surveillance sur les frontières. Les Rwandais s'y étaient opposés. Donc c'était tout à fait prévisible qu'une force, une brigade qui viendrait de l'ONU et intégrée au sein de la MONUSCO, que les autres soient hostiles. C'est comme ça que le Rwanda, l'Ouganda, et on a même parlé de deux Congolais à la sorte du M23, Mboussa Nyamwisi et Roger Lumbala, qui se sont ralliés en Afrique du Sud. C'est comme ça qu'ils ont fait cette coalition afin de barrer la route, parce que l'Afrique du Sud devait jouer un rôle majeur au sein de cette brigade.
Et donc la SADC a été embarquée dans cette logique du Rwanda et de l'Ouganda?
Bien entendu, parce que si la brigade de Ban Ki-moon arrive sur place en RDC, ça va vider le M23 de toute sa substance. Or, le Rwanda et l'Ouganda voudraient, avant qu'on y arrive, d'abord qu'on examine les revendications du M23, qu'on les prenne en compte, etc. etc. En fait, ils s'opposent à ce que la paix revienne totalement en RDC, parce qu'ils sont, d'après moi, embarqué dans le chemin de la balkanisation du Congo-Kinshasa.
Bienvenue Marie Bakoumania. Des discussions menacées entre la SADC et les Nations Unies qui voudraient voir cette force être intégrée dans leur sein, les Nations Unies, et la SADC qui voudrait aussi avoir des assurances si cette brigade ferait correctement son travail. On sait déjà qu'il y avait un problème entre la SADC et la CIRGL au sujet de la mission assignée à cette force. La CIRGL penser que cette force devrait neutraliser les forces négatives, sans citer les M23. Tandis que la SADC, elle, pensait qu'il fallait neutraliser les forces négatives, en commençant par les M23. Mais aujourd'hui, on a l'impression que la SADC, sa position a évolué.
Écoutez Guy, dans cette affaire, c'est de la pure distraction. De la pure distraction, et ceux qui sont distraits sont ceux de Kinshasa, malheureusement. Hein, ceux de Kinshasa sont distraits parce qu'ils ne comprennent pas la géopolitique de la sous-région. La géopolitique de la sous-région pilotée par la CIRGEL, c'est une géopolitique qui voudrait que la République démocratique du Congo reste dans cet état de non-état. Hein, que cette absence, ce vide que l'on constate ici au Congo, ça ne veut pas dire que les personnes qui sont là ne savent. Non, ils existent, mais sur le plan géostratégique, on a comme l'impression que la RDC, c'est un trou noir où l'on ne peut rien. Retenez, quand les acteurs s'expriment, ils disent des choses et il faut toujours les retenir et tenir compte de ces choses-là lorsqu'on procède à des analyses. James Kabarebe qui déclare que la force internationale neutre ne viendra jamais, pour lui. Personne n'a fait attention et aujourd'hui, clairement, on est en train de cheminer vers cette voie. Et ce sont des pays de la SADC, plutôt de la CIRGEL. On avait avant, Marcel l'a bien dit, le Rwanda et l'Ouganda qui ont fait obstruction. Maintenant, c'est la Tanzanie et la République sud-africaine qui font obstruction. Moi, je me souviens, j'ai assisté à une conférence, un professeur congolais qui vit aux États-Unis nous a dit à l'époque, bien avant, il faut redouter l'Afrique du Sud et la Tanzanie. Ce sont ces deux pays sur le plan géostratégique, ils vont reprendre la place qu'occupait le Burundi, plutôt l'Ouganda et le Rwanda pour piloter les affaires de la République démocratique du Congo. Je pense que tout ça, ce n'est pas la solution. Pour le pays de la CIRGEL, il fallait fragiliser Kabila. Il ne fallait pas le faire partir, mais il fallait le fragiliser. Et pour le fragiliser, ils ont intérêt à ce que le M23 puisse toujours exister. Hein, il peut prendre plusieurs formes. C'était le RCD, SNDP, aujourd'hui c'est M23. Demain, ça pourrait encore prendre une autre forme. L'essentiel pour eux, serait que cette situation d'instabilité puisse perdurer le plus longtemps possible. Et la solution pour moi, il n'y en a pas deux. Il faut oublier la MONUSCO, il faut oublier la SADC, il faut oublier la CIRGEL, il faut mettre en place une armée républicaine persuasive afin de sécuriser les frontières nationales. Le contraire, c'est de la distraction pure et on va être distrait et perdre de l'énergie et du temps inutilement.
Jean-Noma, si une certaine opinion se demande où est la RDC dans tout ceci, hein, car logiquement, c'est la RDC qui devrait dire à ses partenaires internationaux ce qu'elle veut.
Oui, moi je pense que je regrette tout ce qui se passe parce que c'est comme si la République démocratique du Congo est absente pour que l'État congolais existe. Et moi, je ne vois pas une solution à l'est de la République démocratique du Congo venant de l'extérieur, venant de la diplomatie. Moi, je pense que je mets cette diplomatie en doute parce que la situation ne date pas d'aujourd'hui. Ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, c'est une situation de longue date. De réunion à réunion, Kampala, Addis Abeba, Afrique du Sud, Tanzanie. Moi, je pense que il faut aller tout droit au but. Et tout droit au but, c'est quoi? C'est la République démocratique du Congo qui doit se réorganiser rapidement avec son armée. Comme ça, on va imposer la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Moi, je suis sceptique, je ne vois pas cette diplomatie étrangère trouver une solution à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Nous devions nous-mêmes prendre la situation en main et imposer la paix là-bas parce que trop, c'est trop.
Marcel Mandokila, on parle de la CIRGEL, on parle de la SADC. Vous pensez que dans ces regroupements régionaux, le Congo n'a pas d'amis? Ou alors c'est le Congo qui n'arrive pas à exprimer formellement sa position?
Moi je crois que c'est un problème de vision. L'Ouganda, le Rwanda, avec tout ce qu'ils font piloter de rébellion en RDC, il y a d'abord une projection, il y a une conception, il y a une exécution. Nous ne savons pas anticiper. Nous ne faisons que subir des événements depuis 2 années. Donc nous devons repenser notre vision. Nous devons savoir anticiper. Ce qui s'est fait aujourd'hui, si c'est mal fait, qu'est-ce qui pourrait arriver demain? Nous devons anticiper. Nous devons également être présents à travers le monde pour les actions de lobbying. Partout où il faut entrer, les Rwandais sont mieux organisés que nous. Donc je crois que nous devons tirer les leçons nécessaires. Et en RDC, le pouvoir doit arrêter de passer son temps à surveiller l'opposition. Il faut plutôt voir le pays, anticiper, et c'est en fonction de la vision qu'on a. Donc s'il gèle, je ne sais pas moi, SADC, nous devons nous arranger pour que nous puissions, nous, être suffisamment ancrés là-bas et même piloter ces machines, c'est possible, pourquoi pas.
Bienvenue Marie Bakoumania, selon Marcel Manoki, là c'est un problème de vision. Entre-temps, nous savons qu'à Kampala, les partis n'arrivent pas à s'accorder sur les contenus des négociations.
Ah mais justement, c'est de la pure distraction. On est en train de tourner autour du pot. On est en train de tergiverser pour rien. Le vrai problème, je suis d'accord avec mon frère Marcel et mon confrère de Mwanda,
Jean Dombassi.
La solution ne viendrait pas de l'étranger. L'étranger veut nous fragiliser. Qu'on ne se fasse pas division. On a eu des élections catastrophiques. Des élections qui font qu'aujourd'hui, les gens ont le courage, ont la possibilité de dire au président Kabila que vous avez été mal élu. On veut le mettre dans une position où il ne peut pas gérer le pays convenablement. Et cette position, ce n'est pas l'individu Kabila qu'on voudrait. C'est l'État congolais qu'on veut maintenir dans un état d'instabilité permanente pour que l'on puisse mettre en exécution ce plan de balkanisation du pays qui est très très avancé à ce stade. Et nous, malheureusement, c'est là que le comportement des dirigeants congolais étonne. C'est comme s'ils ne comprennent pas la géopolitique, comment est-ce qu'elle fonctionne. C'est là qu'on est étonné que le gouvernement congolais se tourne vers ceux-là même qui pilotent la CIRGEL, c'est-à-dire Kampala, pour trouver des solutions. On se retourne vers les pyromanes pour trouver des solutions. C'est inadmissible, c'est incompréhensible que les dirigeants congolais qui ont à ce niveau-là des responsabilités devraient comprendre que cela ne nous apporterait jamais la solution parce que eux, ils ont intérêt à ce que nous soyons maintenus dans cet état, dans cette situation de ni pays, ni état, ni gouvernement.
Mais vous avez proposé comme solution la mise en place d'une armée dissuasive, mais ça c'est un travail de longue haleine. Pour le moment, immédiatement, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire face à ces adversités? Parce qu'il y a un problème, il faut trouver une solution immédiate.
Écoutez, si aujourd'hui la solution c'est de se confier à la CIRGEL et de trouver une force internationale neutre, je pense qu'on n'aurait rien compris. Si aujourd'hui on peut déjà commencer à donner un signal fort, on met en place une armée, on met en place ne serait-ce que la volonté de mettre en place une armée. Les autres vont comprendre.
La volonté a été exprimée par le chef de l'État.
Il faut pas se limiter à l'exprimer. Il faut se mettre résolument au travail. Les autres comprendront que, finalement, les Congolais ont compris que leur salut passe par une armée de leurs propres fils, composée de leurs propres filles et fils. À ce moment-là, ils vont commencer à nous respecter. Mais lorsque nous continuons à donner cette image des pleurnichards, cette image des gens qui attendent les mains tendues, que la CIRGEL fasse quelque chose, que les grands frères Afrique du Sud et Angola fassent quelque chose, je pense que si on reste dans cette position, les autres ne vont nous considérer que comme des gens qui ne valent pas la peine et ils vont nous traiter comme tels.
Marcel Mandekila, comment vous analysez l'attitude des forces vives de la nation ici au Congo et de l'opposition qui pense que Kampala n'aboutira à rien et que la solution c'est un dialogue interne?
Oui, nous avons un problème interne à résoudre. Pour Kampala, moi je pense aussi que du côté du gouvernement, on doit mettre le temps en profit. Pendant qu'on passe le temps à négocier, il faut préparer la réplique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les négociations capotent, qu'est-ce qui arrive? On rentre sur le front militaire. Donc il faut se préparer en conséquence. Si ça ne marche pas, nous les repoussons par la force et ils apprendront à nous respecter. La société civile, l'opposition, tout à fait normal, on a parlé de la cohésion nationale. Mais la cohésion nationale s'exprime en quels termes? Il n'y a pas eu un forum pour que les gens se mettent d'accord sur l'attitude adoptée vis-à-vis de ces problèmes. Donc là aussi, ça fait défaut. C'est comme ça que l'opposition répète qu'il faut un forum national, mais apparemment, du côté du pouvoir, le seul contenu qu'on voudrait donner à ça, c'est la cohésion nationale, c'est-à-dire soutenez-nous, nous devant, vous derrière.
Jean Dombassi, les problèmes sécuritaires qui se posent dans l'Est de la RDC, c'est un problème multidimensionnel. Et pensez-vous qu'un forum national à lui seul suffirait pour apporter des solutions adéquates à ces problèmes?
Oui, moi je vois forum, c'est bon, mais forum après. Parce que moi je ne vois pas précipiter ce forum-là avant la récupération de cette partie-là de la RDC, de notre pays qui est occupé là. Donc, on peut toujours dialoguer, il n'y a pas de problème, mais d'abord, il faut refaire l'armée, rapidement. Parce que nous savons, du côté de l'Ouganda, rien ne va sortir de là. C'est déjà un fiasco. Donc, au moment où ils sont en train de dialoguer de l'autre côté, il faut refaire l'armée, il faut recruter les jeunes gens, et puis il faut les équiper. Les entraîner rapidement et puis les équiper. La solution doit être militaire pour retrouver la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Et une fois que nous récupérons cette partie-là à problème, il faut fortement la militariser. Je l'ai dit la fois passée. Il faut venir ici du côté de l'enclave congolaise de Kabinda pour voir ce que Eduardo Santos a fait. Donc il faut récupérer la partie problématique et fortement la militariser. Et nous pensons qu'il y aura une paix durable. Et après, on peut préconiser ce qu'on appelle le dialogue, quoi. Le dialogue, nous, on insiste, on ne mettra pas en cause les institutions. Nous savons qu'il y a eu des élections décriées. Même le chef de l'État l'a remis publiquement. Il faut attendre 2016. Ceux qui veulent prendre le pouvoir à Kinshasa, qu'ils se mettent à se préparer. Et puis en 2016, on va aller aux élections. Et nous pensons que ces élections seront bien organisées et cette fois-ci.
Bienvenue Marie Bakoumania. Il y a des experts militaires qui pensent qu'en 6 mois, on peut mettre en place une armée dissuasive. Vous pensez que c'est réaliste dans les contextes congolais?
Bien sûr. Bien sûr, dans le contexte congolais, on peut bien, si l'on crée cette idée de cohésion nationale avancée par les chefs de l'État, moi je l'ai saluée. Je l'ai saluée dans la mesure où je me suis dit, ben finalement, le président de la République a compris que tant qu'il peut dialoguer avec Kagame, considéré comme le bourreau du peuple congolais, 6 millions de morts, n'oubliez pas, tant qu'il peut on n'en parle pas assez, c'est quand même curieux, il n'y a même pas un symbole qui démontre que nous plairons nos morts, nous reconnaissons que nos frères ont été tués de manière barbare, et tant qu'il peut parler encore avec...
Apparemment, on ne communique pas assez par rapport à cette guerre à laquelle nous faisons face. On ne communique pas assez.
Justement, Guy...
Je prends un exemple. Vous voyez les Maliens qui sont en train de jouer à la CAN, l'équipe malienne. Mm-hmm. Mais ils utilisent cette occasion pour faire passer un message, dire nous battons ici pour soutenir nos militaires qui sont là. Pourtant, la RDC se trouve presque dans la même situation, mais est-ce que nous, on a essayé d'utiliser la même approche?
En tout cas, Guy, le lobbying... quand on le fait, moi je viens de l'étranger, j'ai parlé avec des gens de la situation de mon pays. Mais laissez-moi parachever mon raisonnement de tout à l'heure. Pour dire que tant que nous n'arriverons pas à répondre de manière appropriée, ce n'est pas intéressant. Le président Kagame vient d'accorder une interview et il dit qu'à Kinshasa c'est le vide, il n'y a personne. Et curieusement, à Kinshasa réellement, ça sonne creux. Personne ne répond. Il n'y a pas de répondant, personne n'a osé élever sa petite voix pour dire à Kagame stop. Hein, il n'y a qu'une certaine opinion qui se dit scandalisée, mais ceux qui ont la possibilité de parler au nom du peuple congolais ne le font pas. L'Assemblée nationale, les députés, les partis de la majorité, les partis de l'opposition, personne, c'est comme si tout le monde a acquiescé. Et là, ça nous fait voir, c'est comme si il y a une mainmise là, du Rwanda sur les animateurs des institutions de la République démocratique du Congo. Et là, ça devient dangereux pour les patriotes qui se disent, mais on n'est plus sécurisé du tout. Le pays est livré à lui-même. Et les autorités, curieusement, je ne sais pas, ils sont occupés finalement à faire quoi? À accompagner le Rwanda LM23 ou à les combattre? Parce que là, curieusement, ils sont en train d'accompagner les agresseurs plutôt que de lutter contre les agresseurs. Et en 6 mois, je vous dis la main sur le cœur, on peut avoir des combattants et on peut les aguerrir au fond. Pourquoi pas les Kadogo? Ils ont eu combien de temps pour chasser Mobutu du pouvoir?
Marcel Mandokila, pensez-vous que le forum national, à lui seul, pourrait aider la RDC à trouver des solutions à ce problème multidimensionnel? Il y a des gens qui disent que c'est un problème complexe.
Oui, il faut faire la part des choses. La guerre, nous l'avons tous dit ici, ça se gagne militairement. Pas en se mettant à une même table que des rebelles qui passent pour des criminels, etc. Non, soyons sérieux. Kampala, c'est une distraction. Nous ne pouvons mettre à profit cette distraction. Pendant que les gens échangent là-bas, bon, d'abord c'est le langage des sourds, nous préparons notre armée, nous préparons nos éléments, pas des recrues, c'est-à-dire des éléments dont nous disposons encore, qui peuvent faire face. Parce que si ça ne marche pas à Kampala, l'M23 va se dire, tiens, je reprends les armes, l'Afrique, le Rwanda va s'organiser aussi. Nous devons anticiper. Dès que ça capote, nous passons à l'offensive. Nous les dirigeons. Nous militarisons cette zone, comme l'a dit...
Et vous pensez que l'M23 dort aussi sur son laurier?
Mais l'M23 maintenant a un problème. Le Rwanda et le Luganda ont été suffisamment accusés que c'est difficile d'apporter la logistique nécessaire maintenant au M23. Nous devons profiter de cet avantage. ne devons pas être distraits. Le Forum national est là pour régler des problèmes internes. Donc il faut faire la part des choses.
Merci, nous passons à notre deuxième thème de ce soir. Clôture hier jeudi à Lubumbashi au Katanga de la conférence sur la bonne gouvernance et la transparence dans les secteurs miniers. Pendant deux jours, plus de 800 personnes, parmi lesquelles les acteurs étatiques, privés et de la société civile, ont pris part à ces assises. Pour le ministre des Mines et du gouvernement central, il est temps de songer à développer ce secteur vital de l'économie de notre pays. Martin Kabouloulou reconnaît cependant que malgré l'augmentation de la production dans le secteur minier, l'État ne gagne pas assez d'argent à cause de la corruption et de la fraude. Des mesures, ajoute-t-il, seront prises pour arrêter ces pratiques. On l'écoute au micro de Paulin Munanga.
On est parti de 5 000 tonnes de cuivre il y a 10 ans pour 600 000 tonnes. Des euros kilo d'or à 3 tonnes, de 5 000 tonnes de cobalt jusqu'à 80 000 tonnes. Mais les recettes de l'État n'augmentent pas substantiellement par rapport à la production. Toutes les autorités l'ont constaté et le chef de l'État a dit qu'on s'arrête, qu'on sache les recettes vont où. Et la production qui augmente, les investisseurs ne cessent de venir. Mais il faut savoir comment nous devons pouvoir améliorer la collecte des recettes. Nous avons déjà une commission interministérielle qui travaille déjà. Dans cette commission, il y a les agents du parquet, il y a l'ANER, il y a la police. Cette commission, nous allons encore la redynamiser pour qu'elle vienne partout et ici au Katanga aussi pour pouvoir travailler. Nous savons qu'il y a la fraude à tous les niveaux. Nous allons pouvoir créer une commission qui va collecter les points de perception de toutes les recettes. Nous allons suivre comment il faudra, chaque fois qu'une recette est payée, nous puissions la prendre et qu'elle aille dans la caisse du Trésor public.
Jean Domassi, je rappelle que vous êtes directeur de la radio communautaire de Moanda au Bas-Congo. Le ministre des Mines s'interroge. 5 000 tonnes de cuivre il y a 10 ans pour 600 000 tonnes aujourd'hui. Des 0 kg d'or à 3 tonnes aujourd'hui. Des 5 000 tonnes de cobalt à 80 000 tonnes. Mais les recettes de l'État n'augmentent pas proportionnellement à la production.
Oui, c'est un constat amer, un constat triste. Mais nous saluons quand même les géants congolais qui se réveillent de plus en plus dans le secteur minier. Alors, à voir ce tableau, le tableau présenté par le ministre national ayant en charge les mines, c'est pour vous dire que la fraude a été érigée en système dans notre pays, la République démocratique du Congo. Et puis, il faut prendre toutes les dispositions à ce sujet parce que les participants à cette conférence sont sortis de là avec une centaine de recommandations. Et nous, on demande, avec une centaine de recommandations, on va commencer par où? Qu'est-ce qu'on va faire en priorité dans un premier temps pour arrêter ces couloirs en cravate qui sont dans les mines, ces M23 en cravate qui sont encore dans les mines du côté du Katanga? Et moi, je pense que c'est vraiment triste, la réalité. Mais comme ils ont été là, et les tableaux est très noir à ce sujet, et c'est question de voir, avec toutes ces recommandations, qu'est-ce qu'il faut prendre comme mesure dans un premier temps. Donc, c'est là où le problème se retrouve encore. Et l'État congolais qui vient de perdre des millions et des millions de dollars à ce sujet-là, c'est de l'argent qu'on prenne qui disparaît dans ce pays. Et pourtant que la pauvreté bat son plein, il n'y a pas de bancs pipites dans les écoles, il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux, il n'y a pas d'argent pour payer les fonctionnaires, il n'y a pas d'argent pour motiver même les militaires qui doivent aller chasser les F-23 de l'autre côté, et les mines ne donnent rien. Merci. Donc c'est vraiment triste et c'est révoltant pour notre pays, la République démocratique du Congo. Mais la loi minière aussi doit être quand même retouchée, parce que vous savez que cette loi minière donne beaucoup de pouvoir aux gens qui sont à Kinshasa, et les autorités locales au niveau provincial n'ont rien à dire. Donc voilà un peu mon point de vue à ce sujet.
Bienvenue Marie Bakoumania, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef d'Esk Économie au groupe de presse Le Potentiel. Selon Jean Domassi, les géants Congo se réveillent dans les secteurs miniers. Il y a le ministre Martin Kabouloulou qui a dénoncé la corruption dans les secteurs et il dit que c'est seulement maintenant que les constats viennent d'être faits.
Écoutez, Guy, j'ai envie, soit de rire, soit de pleurer. Moi, je préfère peut-être en pleurer. Quand j'entends des officiels, ceux-là même qui ont en charge de ne pas favoriser la corruption et la fraude, pendant des années, ministre Kabouéloulou, il est resté dans ce portefeuille pendant plusieurs années, qui viennent nous dresser ces murs de lamentation, ça m'écœure plus que ça ne me réjouit. Et je me dis, quand on parle bonne gouvernance et transparence dans les secteurs des mines, je me pose la question, on veut se moquer de qui? Hein, parce que pas plus tard qu'il y a quelques jours, hein, on a le PEG 2 a fait naufrage parce qu'on n'avait pas publié des contrats de la Gécamines.
Et on a perdu 240 millions
d'appui de la part du Fonds monétaire international et la BAD a suivi, la Banque mondiale suivra. Quand si on ne fait pas rapidement, on se remet pas rapidement en programme avec le FMI. Je me dis, on se moque de qui? Hein, on va commencer à lutter contre la fraude aujourd'hui alors qu'on a des dossiers brûlants. Hein, il y a une révélation, par exemple, de Global Witness, hein, sur NRC, hein, qui a acheté des gisements à 100 millions et l'a revendu le soir à 900 millions. Hein, et des individus notoirement connus de tous les Congolais, intéressés par la question. Qu'est-ce qu'on en a fait? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas commencé à lutter contre la fraude et la corruption par cela? Parce que simplement, lorsque vous creusez, ça remonte au gouvernement, ça remonte à la présidence de la République. C'est ça le vrai problème. Et tant que ceux qui sont là, ceux qui sont chargés de lutter contre la corruption et la fraude, sont eux-mêmes impliqués, ben on se moque de qui?
Marcelin Mwandwakila, je rappelle que vous êtes directeur des rédactions au quotidien Forum des As, un journal qui paraît ici à Kinshasa. Le ministre a annoncé la mise sur pied d'une commission interministérielle pour combattre cette fraude. Il a même annoncé une commission spéciale qui sera chargée de faire le suivi des recettes qui sont payées afin que ces recettes puissent aller directement dans les caisses du trésor public. Pensez-vous que cette approche est efficace?
Moi, je pense plutôt qu'on doit éviter de trop réfléchir dans ce pays. Ce n'est pas le premier forum. Bonne gouvernance, transparence, corruption, fraude. On en a parlé en 2004 avec les forums sur l'ITIE. Il y avait des résolutions. Est-ce qu'elles ont connu un début d'application jusqu'à aujourd'hui? Rien. Il y a un chef d'État qui disait, en Afrique, il y a tout le temps atelier, symposium, forum sur le renforcement des capacités. Les gens ne travaillent pas vraiment. En Chine, il n'y a pas toutes ces formules, les gens travaillent. Le problème, c'est le changement de mentalité. Le constat que le ministre fait semblant de faire aujourd'hui a été fait depuis plusieurs années. Et chaque année, on fait le même constat. Au ministère des Mines, il y a une direction pour la fraude. Quel est le résultat? Dernièrement, il y a des OPJ du secteur minier qui ont prêté serment, toujours contre la fraude, la corruption. Le problème, c'est le changement de mentalité et la volonté. Bienvenue à citer quelques cas. Mais le cas de la fraude, de la corruption, etc. Mais c'est connu. Pourquoi on ne passe jamais à l'acte? Je crois que la seule innovation pour Lubumbashi, c'est que les minerais soient transformés sur place avant leur exportation. Mais je me dis, une chose est de dire, une autre est de faire. Avons-nous déjà les équipements pour transformer sur place? Sinon, ce sera vraiment un vœu pieux.
Jean-Thomas, si, selon le ministre, le secteur minier est bien géré, et le problème est plutôt ailleurs, hein, dans l'amélioration du recouvrement des recettes.
Oui, le problème, c'est ce que j'ai dit là. Donc, le secteur minier, il faut repenser beaucoup de choses. Il y a eu 100 recommandations. Je reviens à ce que le conseil disait là. La bonne gouvernance dans le secteur minier passe inévitablement par l'application effective des liquidités. Donc, les entreprises doivent toujours publier ce qu'elles payent au trésor public parce que la société civile doit tout suivre pour en débattre. Mais si l'IQI est enterré dans le secteur minier, ça favorise directement la fraude. Et quand il y a la fraude, et puis il n'y a rien dans la tête du trésor, c'est là où l'État congolais est en train de souffrir. L'État a des problèmes partout, là, l'État n'a pas de moyens, parce que quand vous prenez à 5 000 tonnes, il y a cela 10 ans, à 600 000 tonnes, et que les recettes de l'État n'augmentent pas. Moi, je pense que c'est vraiment ridicule. Donc, la situation est grave et nous pensons qu'il faut chercher à à dénicher les auteurs. C'est qui font cela, qui prennent de l'argent pour leur propre poche, pour leurs intérêts. Mais moi, je pense qu'ils sont à Kinshasa là-bas. Il faut les chercher à Kinshasa. N'allez pas d'abord à Lubumbashi, commencez à les chercher à Kinshasa là-bas. Parce que nous, nous sommes en province. Tout passe par là, non? Tout commence par là.
Si.
Voilà.
Bienvenue, Marie Bakoumania. D'un côté, il y a les booms dans les secteurs miniers, et de l'autre, il y a la paupérisation même de la population. Et pour expliquer ces phénomènes, il y a une certaine opinion évoque des facteurs, à savoir les cadres juridiques, les infrastructures des bases.
Absolument. Vous savez, le code minier de 2002 accorde beaucoup d'avantages aux investisseurs. C'était justement pour les attirer.
Mais il y a un débat à ce sujet, des codes miniers. Il y en a qui pensent que c'est un code qui est adapté aux réalités de la RDC. D'autres, par contre, pensent qu'il est lacunaire.
Oui, il est lacunaire. Il faut le réadapter à nos réalités, absolument. On a la preuve. On passe de 5 millions de tonnes à 600 millions de tonnes.
Mais un code qui n'est pas vieux.
C'est à peine 10 ans déjà. Hein. 10 ans déjà, on est à la 11e année. Donc, c'est le moment de le réviser, revoir certaines dispositions. On a accordé beaucoup d'avantages aux investisseurs. Il faut également que l'État puisse s'y retrouver. Il est vrai aussi que beaucoup de projets arrivent à maturation et c'est le moment de récolter le fruit des investissements qui ont été consentis par l'État en termes d'exemption de taxes et autres. Mais moi, je pense que le vrai problème, ce n'est pas le code. Le vrai problème, c'est l'homme. Le vrai problème, c'est la justice. Si la justice était d'application, de stricte application dans le secteur, on ne connaîtrait pas la fraude telle qu'on la connaît. Mais la fraude, elle est organisée par ceux-là même qui sont censés protéger les intérêts de l'État, c'est-à-dire les gouvernements et ces technostructures. Et ça se passe par là. Aller ailleurs, aller chercher la faute ailleurs, c'est vraiment aller à côté de taper à côté de la plaque. Il faut frapper dans le gouvernement par ceux qui sont dans le secteur, qui gèrent le secteur depuis des années. Il faut les frapper parce que c'est eux qui organisent la fraude et c'est eux qui sont à la base de cette évasion fiscale qu'on enregistre.
Merci, c'est la fin de cette émission. Héritier Sidakal était à la technique et Kaline Kouté à la réalisation sous la supervision des Pélé Kipela Mondo. Devant ces micros, Guy Maté, merci et bonne suite des programmes sur Radio Okapi.